Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, 1833, n'importe quoi. Une très mauvaise journée. Et le pouvoir du luxe discret. Bonne écoute.
N'importe quoi. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2023 dans la presse. Personne ne répond à la ligne téléphonique mise en place par le ministère de l'Éducation pour qui voudrait dénoncer une situation de violence sexuelle dans une école. Au lieu d'une oreille bienveillante, une jeune victime qui prend son courage à deux mains pour dénoncer son agresseur a droit à la chaleur d'une boîte vocale. Au lieu de la confidentialité promise et attendue, on lui demande de laisser son nom et son numéro de téléphone. Après le bip, parlez-nous de votre agression. On vous rappelle. J'étais stupéfaite en lisant l'article de ma collègue Marie-Ève Moras sur la ligne 1833 dénonce, annoncé en grande pompe par le ministre de l'Éducation Bernard Drainville, qui se disait préoccupé par la multiplication des cas de violences sexuelles rapportés dans le réseau de l'éducation. En plus de lancer une enquête de « portée générale », dont la portée réelle demeure encore nébuleuse, annoncée le 21 mars dernier, le ministre a dit vouloir implanter une telle ligne parce qu'il était important que les élèves victimes de violences sexuelles puissent rapporter ces situations confidentiellement et en toute sécurité. La santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire sont mes priorités et je ne ferai aucun compromis là-dessus, déclarait-il. Aucun compromis. Sauf peut-être celui de la rigueur qui commande de minimalement consulter ceux qui travaillent à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et qui aurait peut-être pu donner deux ou trois conseils pertinents avant de lancer une ligne 1833 n'importe quoi. Dès son lancement, la ligne 1833 dénonce était déjà critiquée par des élèves et des intervenants. « Ce n'est pas du tout ce qu'on a demandé », a déploré en entrevue à Radio-Canada Alexandra Dupuis, co-coordonnatrice du collectif « La voix des jeunes compte », un regroupement d'élèves qui, dans la foulée de hashtag « Moi aussi », dénonce depuis plus de 5 ans les protocoles inadaptés et le manque de ressources appropriées pour lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Si toute ressource additionnelle est la bienvenue, encore faut-il qu'elle ne dédouble pas en moins bien ce qui existe déjà, a averti pour sa part Monique Villeneuve, directrice générale du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, dans ce même reportage diffusé le 12 avril dernier. Devant ces critiques, le ministère de l'Éducation aurait pu d'emblée rectifier le tir pour s'assurer que sa stratégie, aussi bien intentionnée soit-elle, ne rate pas sa cible. Mais non. Après avoir pris connaissance de l'article de Marie-Ève Moras, je me suis dit qu'à la première heure vendredi, le ministre Drainville allait saisir au bon cette deuxième chance de rectifier le tir en veillant à ce qu'il y ait au moins un être humain plutôt qu'une boîte vocale au bout du fil. Mais non. Lorsque j'ai appelé au 1833 dénonce vendredi, le 20 avril, il n'y avait toujours personne. J'ai envoyé un texto à l'attaché de presse du ministre pour savoir quelle suite il allait donner à ce qui était rapporté par ma collègue. J'ai eu droit à la même réponse que lorsque j'ai voulu, le mois dernier, poser des questions à M. Drainville sur les écoles vétustes, soudainement pas si vétustes. Aucune réponse. À ma collègue, Marie-Ève, l'attachée de presse a répondu que le ministre juge inacceptable que la ligne téléphonique renvoie systématiquement à une boîte vocale. Des correctifs seront apportés. Il reste à espérer que ces correctifs ne soient pas faits en vase clos, mais en tenant compte de l'expertise des organismes spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles et l'intervention auprès des jeunes. C'est vraiment triste de ne pas prendre davantage en considération les victimes et d'offrir une réponse aussi simpliste à un problème social si complexe, me dit la directrice du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles. Si le ministre Drainville avait pris la peine de la consulter, Mme Villeneuve lui aurait dit d'emblée ce que bon nombre de parents savent déjà. Les jeunes n'appellent pas, ils textent. « Je suis maman et grand-maman. Mes petits-enfants ne m'appellent pas. Ils m'envoient des textos. » Si un ado n'appelle même pas sa grand-mère, la probabilité qu'il appelle une boîte vocale impersonnelle du ministère de l'Éducation pour dénoncer une agression est, comment dire, plutôt faible. Au Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, on s'est adapté en conséquence. Depuis l'automne, on a un cellulaire. Notre intervenante jeunesse reçoit des textos des ados. Chez tel jeune, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Il y a des lignes 24/7 qui ne sonnent plus depuis des années. La ligne téléphonique fonctionne encore, mais il y a longtemps qu'on est passé au texto et au clavardage parce que les ados sont ailleurs. Tant qu'à investir dans des ressources, choisissons les bonnes, plaide Mme Villeneuve. Au lieu d'investir dans une ligne téléphonique alors qu'il existe déjà des lignes 24/7, on pourrait par exemple s'assurer d'avoir assez d'intervenants sur le terrain. Juste sur le territoire de Laval que dessert notre organisme, je n'ai pas assez de personnel pour couvrir toutes les écoles. J'aimerais ça qu'il m'appelle, M. Drainville. J'ai plein de choses à lui dire. Par téléphone ou par texto, peu importe. Pour autant qu'elle ne tombe pas sur une boîte vocale. C'était 1-833 n'importe quoi, un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2023 dans la presse. Très mauvaise journée. Un texte de Mario Girard, paru le 24 avril 2023, dans la presse. La journée du 7 août 2022 restera gravée à tout jamais dans la mémoire de Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Elle est tatouée du malheureux cafouillage qui a mené à l'annulation du défilé qui devait rassembler 100 000 spectateurs et 12 000 participants. « Ce fut clairement la pire journée de ma vie professionnelle », m'a-t-il dit au cours d'une entrevue où il rompt enfin le silence 8 mois après cette date fatidique. Simon Gamache a souhaité me rencontrer. Il m'a parlé avec sa tête, mais aussi avec son cœur. Je ne reviendrai pas sur tous les détails entourant le dénouement de cette journée, mais rappelons que tôt, ce matin-là, des employés se sont rendus compte qu'une centaine d'agents d'accueil chargés de voir à la sécurité de l'événement n'avaient pas été affectés à cette tâche. Un quiproquo entre deux employés, suivi d'échanges chaotiques et d'actions faites trop rapidement, a fait croire que l'événement était officiellement annulé. Lorsqu'il arrive sur place, environ une heure plus tard, Simon Gamache réalise que de nombreux bénévoles ont quitté les lieux et que les policiers ont rouvert le boulevard René-Lévesque à la circulation. Le ciel lui tombe littéralement sur la tête. Mis devant le fait accompli, celui qui est en poste depuis septembre 2021 ne peut faire autrement que de confirmer l'annulation. Il était trop tard pour revenir en arrière. Quand le dentifrice sort du tube, c'est difficile de le rentrer. C'est alors qu'une tornade se forme. Malgré l'extrême tension qui règne, Simon Gamache met de côté les émotions qu'il aurait pu ressentir, la colère par exemple, et se met en mode opérationnel. Un relevé de ses appels téléphoniques indique qu'il en a fait près de 95 en 3 heures. L'une des communications vise le bureau de François Legault. Près de 35 élus des 3 paliers devaient participer au défilé, reprend Simon Gamache. Cela implique des enjeux de sécurité avec la SQ et la GRC. Il fallait joindre tous ces gens. Seul dans le stade. Alors qu'elle tente de voir plus clair, l'équipe de Fierté Montréal doit aussi combattre l'incontournable machine à rumeurs qui va bon train sur les réseaux sociaux. Certains internautes avancent l'hypothèse d'une menace terroriste, d'autres prétendent que la faute incombe aux policiers, car la veille du défilé, un quotidien rapportait que Simon Gamache ne souhaitait pas leur présence. Cela est sans compter la pluie d'insultes qui s'abat sur l'équipe de Fierté Montréal. Les journalistes commençaient leur entrevue en me demandant si j'allais démissionner, se souvient le DG. À la fin de la journée, vers 17 heures, Simon Gamache éprouve le besoin d'être avec les membres de son équipe. Il se rend au Parc olympique, là où 25 000 personnes prennent part à un tea dance. Je suis monté dans la voiture d'une collègue. J'étais traumatisé. Je me suis calé dans mon siège de peur que les gens me voient. J'avais peur pour ma sécurité. Sur place, il a droit à un curieux mélange de réactions. Certains pleuraient, d'autres exprimaient leur incompréhension totale. J'étais incapable de leur répondre. Voyant cela, je suis entré dans le stade et je suis allé m'asseoir seul dans les gradins. Simon Gamache m'a raconté ce passage les yeux pleins d'eau. Des collègues sont venus me voir un à un pour me dire que ça allait bien aller. Ce qui m'y touche après coup, c'est que l'équipe est demeurée intacte. On a vécu ça ensemble. On deal encore avec ça, mais on avance. Les deux personnes à l'origine du quiproquo sont toujours employées de Fierté Montréal. Ces personnes n'étaient tout simplement pas dans les bons rôles au bon moment, explique Simon Gamache. Elles occupent d'autres fonctions. Bien sûr que Simon Gamache, musicien de formation et ex-directeur de production chez Analecta, a songé à remettre sa démission. J'ai dû me regarder dans le miroir. Je me suis demandé si j'avais fait des erreurs répréhensibles. La réponse est non. Je me suis surtout demandé si ça valait le coup de continuer à faire cette job. La réponse est oui. Au lendemain de cette catastrophe, Valérie Plante a demandé à rencontrer l'équipe de Fierté Montréal, un événement qui compose avec un budget d'environ 6 millions, dont 400 000 $ de la ville de Montréal. En point de presse, le dimanche, la mairesse de Montréal avait exprimé une certaine exaspération. Le lundi, elle était plutôt en mode solution, dit Simon Gamache. Elle voulait savoir ce que son équipe pouvait faire pour nous épauler. C'est ainsi que l'idée d'une analyse rigoureuse du fil des événements a été mise de l'avant. Ce mandat a été confié à Philippe Schnob, ex-président de la STM. Le rapport a été présenté en octobre dernier. Un organisme devenu trop idéologique? Malgré l'annulation du défilé, une marche communautaire a été organisée dans l'après-midi du 7 août. Simon Gamache a vu des images de cela plusieurs mois plus tard. « J'avoue que j'ai pleuré en voyant ça. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris quel était mon rôle. Fierté Montréal porte plusieurs chapeaux, mais il reste que le défilé est au cœur de ce militantisme. » Ce n'est pas pour rien que Simon Gamache aborde ce sujet avec moi. Dans une chronique publiée au lendemain de l'annulation du défilé, je soulignais le fait que Fierté Montréal s'était récemment dotée d'une liste de revendications. ce qui est louable, mais avait oublié de bien organiser l'événement public qui met en lumière celle-ci. Est-ce que Fierté Montréal serait en train d'emprunter un virage idéologique plus radical comme celui de la Pride Week de Toronto? Il faut savoir que dans toutes les Prides, la gouvernance est très complexe, dit Simon Gamache. Elles sont constituées de militants qui passent leur année à multiplier les revendications. La discussion a glissé sur la présence de policiers au sein du défilé, pas ceux qui assurent la sécurité. C'est très complexe, dit Simon Gamache. Pour certains groupes, la relation avec les policiers demeure difficile. Il faut aussi dire que pour les policiers qui voudraient participer au défilé, c'est également difficile. Je tente d'établir un dialogue de part et d'autre. Une meilleure gouvernance. Parmi les 13 recommandations du rapport, il y a celle de renforcer la gouvernance de l'organisme. Si Simon Gamache n'a congédié personne, 4 personnes ont récemment quitté le conseil d'administration présidé par Mo Amandi. L'équipe de Fierté Montréal étudie actuellement un projet de règlements généraux qui devrait rendre l'organisme plus transparent et rigoureux. On souhaite notamment augmenter le nombre de membres de l'Assemblée générale. Pour le moment, ils ne sont qu'une quinzaine. Un membership plus grand et plus diversifié favoriserait les échanges et les points de vue, pense Simon Gamache. On propose un modèle organisationnel où les membres représenteraient divers organismes et groupes, comme on retrouve dans le défilé. Ça va forcer une unité au sein des organisations. La prochaine édition de Fierté Montréal aura lieu du 3 au 13 août. Comme c'est le cas depuis quelques années, les événements auront lieu au Parc olympique. Quant au défilé, il aura lieu, coûte que coûte, assure Simon Gamache. Je vous garantis qu'il y aura un défilé cette année. S'il faut faire venir du monde du Parc olympique, on va le faire. C'était une très mauvaise journée, un texte de Mario Girard paru le 24 avril 2023 dans la presse.
Le pouvoir du luxe discret. Un texte d'Olivia Levy, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Les coupes des vêtements sont impeccables. Les matières sont luxueuses, les couleurs neutres et le style épuré. Aucun logo n'est visible, ni sur les chandails, ni sur les sacs à main. Bienvenue dans le monde du luxe discret, au Quiet Luxury. Ce thème de « quiet luxury » n'est pas nouveau, loin de là, mais il réapparaît notamment à cause des personnages de la série américaine « Succession », dont l'allure monochrome est très étudiée. Ou encore avec le succès de marques comme De Row, Brunello Cucinelli et Bottega Veneta. Leur particularité? Un design minimaliste et intemporel, des matières luxueuses, aucun logo visible et des prix extrêmement élevé. Le luxe discret est une des caractéristiques de la bourgeoisie qui estime être dépositaire du bon goût et qui se distingue de cette manière des nouveaux riches, explique Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC Paris. Les grands bourgeois estiment qu'ils doivent se différencier par la discrétion. Et les signaux subtils qu'ils envoient sont réservés à ceux qui savent les décoder. Le sac Bottega Veneta, il faut savoir le décoder, sinon c'est un sac quelconque en cuir, tout comme les vêtements de Maison Margiela, qui est une marque très subtile et très chère. Pour Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, le luxe discret, c'est l'ultra-luxe. Ce sont des ultra-riches qui veulent se distinguer des plus riches qui achètent du Louis Vuitton. Alors ils se procurent des marques encore plus chères que seuls les initiés reconnaissent, ce qui est très prétentieux. Ce sont notamment des milliardaires qui ressentent le besoin de se distinguer des autres pour eux-mêmes, car le fait de porter un produit de luxe, c'est toujours pour améliorer l'image de soi, analyse l'auteur de Consommation et luxe. Car le luxe est par définition ostentatoire. Jean-Noël Capferrer cite le philosophe Jean-Jacques Rousseau. « On ne jouit du luxe qu'en le montrant. Le luxe, c'est le plaisir. On est dans la jouissance. C'est une notion fondamentale du luxe. On est aussi dans la méritocratie. On travaille, on gagne de l'argent et on veut montrer cette réussite. Les logos Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton sont les blasons modernes. Ce sont des signes mondiaux de richesse. Car nous avons les mêmes repères de réussite et de richesse qui sont ces marques mondialisées. Le luxe, c'est la diffusion de signes de réussite mondialisés, explique le professeur à HEC Paris, auteur de « Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger ». Le luxe a toujours été visible. Le faste religieux, c'était les cathédrales, avec des dômes en or. Puis, il y a les châteaux et l'or des grandes familles. La famille Médicis en Italie, c'était le faste, le signe de la puissance qui n'a jamais été discrète, dit Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC Paris. Stéphane Leduc, porte-parole du Collège Lassalle, rappelle qu'en effet, l'opulence a toujours été présente dans les collections de marques comme Gucci et Versace, mais depuis septembre dernier, il remarque plus de sobriété. Il y a un vent de changement vers plus de sagesse. Le luxe discret prend les devants. Les couleurs sont plus naturelles. On privilégie des matières comme le cachemire. On simplifie le vêtement. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de l'environnement ou qu'il y a un malaise face à la consommation. Alors, on continue de dépenser, mais dans des valeurs sûres, loin de l'éphémère et du clinquant. On met en valeur le savoir-faire. De Roe, créé par les sœurs Olsen, c'est le luxe discret à prix effarant. La marque obtient un succès phénoménal, tout comme Brunello Cucinelli et Gilles Sander. C'est tout le contraire de la flamboyance et de ceux qui aiment se faire remarquer. Une déclaration de supériorité. Ce n'est pas une volonté de discrétion, au contraire, mais bien d'être encore plus ostentatoire en portant un vêtement sans logo. Ces vêtements sont au-delà du luxe, car ce sont des marques encore plus dispendieuses. Si on veut vraiment être discret, on porte des vêtements ordinaires, pense le professeur Benoît Duguay. Jean-Noël Capferrer rappelle que le luxe est avant tout une industrie, un business, et que le marché du luxe surfe sur la montée des richesses mondiales, en particulier en Asie et aux États-Unis. À chaque crise, on se pose des questions sur le luxe discret. Je reviens de Corée du Sud. Les jeunes Coréens aiment dépenser de l'argent et ne sont pas là pour le cacher, tout comme les Chinois. Ils ne s'expriment pas sur le plan politique, mais ils s'expriment par la consommation. La consommation est un territoire d'expression majeur des classes montantes qui affichent leur réussite et leur gloire, analyse le professeur. Il estime que chaque marque de luxe représente un type de goût. C'est le combat du luxe discret contre le luxe visible et du fait qu'il est plus facile de gagner de l'argent que d'avoir du goût. le luxe discret, c'est le comble de l'ostentation. Et le comble du luxe, c'est le fait de ne pas avoir besoin de logo. Pour les ultra-riches, c'est une déclaration de supériorité, conclut Jean-Noël Capferrère. Un sac trop ostentatoire. Une scène dans le premier épisode de la plus récente saison de Succession illustre bien le fossé qui sépare les nouveaux riches des vieilles familles ultra-fortunées comme les Roy. Ça se résume à un accessoire, un sac Burberry. Bridget, la nouvelle petite amie de Greg, le cousin de la famille, porte un cabas Burberry avec le célèbre motif à carreaux de la maison de luxe britannique lors de l'anniversaire du père, Logan Roy. Or, Tom Wangsgang, un des gendres du patriarche, remarque avec mépris ce monstrueux sac ridiculement volumineux où elle peut mettre son lunch et ses chaussures plates pour prendre le métro. Beaucoup trop ostentatoire à son goût. Selon lui, le fait d'afficher ce sac Burberry, qui vaut près de 4 000 $, fait d'elle une parvenue sans classe, qui ne fait pas partie du même monde que lui. C'était « Le pouvoir du luxe discret », un texte d'Olivia Levy, paru le 9 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.